Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
C'est un Tom Brady émotif qui se dirige vers Green Bay cette semaine, alors qu'il affrontera les Packers de Aaron Rodgers. C'est qui ça, Dan Marino? Peu importe. Les Dolphins ont un nouveau sauveur en Tua Tagovailoa. On en discute avec Alain Poupard, journaliste de Sports Illustrated à Miami. Est-ce que les Bills sont trop forts pour la Ligue? Ils affronteront justement les Dolphins cette semaine dans un match très attendu à Miami. Hurts so good. Incroyable début de saison pour la bande à Jalen Hurts à Philadelphie. Ils ont de l'improbable compagnie en tête de la division, les Giants de New York. Pendant que tout va bien pour certaines équipes, les partisans des Broncos, des Colts, des Bengals, des Panthers, des Browns et des Raiders finissent leur fin de semaine avec plus de questions que de réponses. Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de La Zone Payante, la quatrième émission, épisode en fait devrais-je dire cette année, de notre quatrième saison. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Je suis en compagnie de l'expert, journaliste au Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Cadaret. Salut, Steph!
Salut, Jean-Nic. Content de te retrouver, puis content de notre invité cette semaine, là, avec la semaine que les Dolphins ont connue. On ne pouvait pas mieux tomber. Là.
Incroyable. Quelle semaine de football en général. Beaucoup de remontées. On va en parler plus tard dans l'émission, mais une remontée du quatrième quart dont on va se rappeler longtemps, c'était, en tout cas si on est partisans des Dolphins, c'est celle de Tua Tagovailoa en fin de semaine contre les Ravens. Et pour en parler, ben oui, tu l'as dit, Stéphane, on s'en va rejoindre un journaliste du Sports Illustrated qui est à Miami, Alain Poupard. Salut Alain.
Salut les gars, ça va?
Oui, ça va bien. Incroyable remontée. Mais avant de parler de ce qui s'est passé en fin de semaine, Alain, on aimerait, parce que c'est un peu, à chaque semaine, on a un invité à la zone payante et on fait toujours un peu le même questionnaire parce qu'on aime savoir d'où part l'amour de nos invités pour le football. Puis on aimerait savoir, c'est quoi ton plus vieux souvenir de football? D'abord, toi, t'es un Québécois qui vit à Miami maintenant.
Effectivement. Le premier souvenir que j'ai, puis à moins que je me trompe, c'est la première partie de la NFL que j'ai jamais vue. Ça a été, puis on va donner mon âge, là, la journée de Noël 1971.
Oh!
J'étais chez mes grands-parents, qui avait les Dolphins contre les Chiefs de Kansas City dans une partie de playoff qui a été la plus longue partie dans l'histoire de la NFL, 27-24 en deux prolongations. Puis l'année suivante, on a commencé nos vacances annuelles à Miami. Donc, et de là, en étant amateur de sport...
La saison 72.
La saison 72, ouais.
Qui était... Des victoires...
M'en veux-tu des victoires? Il y en avait 14-0, les trois parties des playoffs. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que moi, je te dirais que, comme en étant quelqu'un qui peut se rappeler de ça, encore parce que je suis vieux, je suis pas convaincu que leur équipe de 73 était pas meilleure que celle de 72. Sauf qu'ils ont perdu deux parties en 73, mais ils étaient épeurants en 73. En 72, ils étaient efficace au max. C'était ça le
opportuniste, gros.
Opportuniste, faisait pas d'erreur mentale pour deux secondes. L'attaque au sol, épuisante, puis qui lâchait pas. Puis très bonne défensive. Mais si tu regardes le résultat dans l'éliminatoire cette année-là, ils ont gagné par 6, 4 et 7 points. Tandis qu'en 73, les trois parties de playoff, ils ont gagné par, je me rappelle bien, de 18, 17 puis 17.
Oh, OK, ouais.
C'est une bonne différence.
Mais là, ça, tu nous parles de tes souvenirs de jeunesse. Mais ouais. Comment, parce que je suis convaincu que nos auditeurs se demandent, ouais, mais comment un Québécois en vient à devenir journaliste attitré à couverture des Dolphins? Parce que tu es là au quotidien, tu suis l'équipe à tous les jours depuis quand même plusieurs années. On a le goût de savoir comment tu es tombé dans Marmite.
OK. Donc, éventuellement, après des années et années de passer nos vacances en Floride, déménager ici au début des années 80, aller à l'université ici pour étudier le journalisme. Éventuellement, une job dans un journal quotidien qui n'existe maintenant même plus, qui s'appelait le Miami News.
Oh.
Et quand le journal a fermé ses portes, la veille du jour de l'an en 1988, 6 mois plus tard, j'ai été engagé pour travailler pour un journal dédié à la couverture des Dolphins qui s'appelle Dolphin Digest. Et depuis ce temps-là, couvre les Dolphins à plein temps pour autres organisations de médias. Donc, une couple d'années étant le journaliste pour le site de l'équipe elle-même. Puis là, wow. J'étais avec le Sports Illustrated Fan Nation All Dolphins depuis 2020.
C'est ça le rêve américain, dans le fond, là. On se pose la question, là. Écoute, partir du Québec puis aller couvrir les Dolphins, là.
Non, c'est pas dire que le rêve, c'était dans les médias sportifs.
Non, je comprends que tu as travaillé fort, mais là, c'est le fun.
Non, pas vraiment. J'étais bien chanceux.
Ah non, mais ça, il y en a qui disent ça des fois. Moi, je me fais dire, « Hey, tu couvres la NFL, t'es tellement chanceux. » C'est vrai, mais je pense qu'à quelque part, on fait sa chance. Il faut le vouloir. C'est un milieu qui est quand même dur à percer. Là. Surtout couvrir une équipe au quotidien comme tu le fais. Il n'y en a pas beaucoup là, des gens de chez nous qui font ça. Là.
Non, non. Et puis, écoute, il faut que tu aies la chance d'avoir les opportunités.
Ouais.
Et il faut que tu capitalises sur tes opportunités parce que sans ça, tu n'en auras pas d'autres. Je fais des blagues en disant que c'est juste la chance. Là. Non, je travaille fort. C'est un métier que j'aime. Fait que c'est une belle combinaison.
En tout cas, moi, en tant que partisan des Dolphins, Alain, je te le dis, je suis très heureux de te lire régulièrement. Puis je trouve que tes textes sont toujours pertinents. C'est pas de la flagornerie, c'est vraiment le cas. Et on est chanceux de t'avoir ici avec nous aujourd'hui et aussi comme journaliste pour les partisans des Dolphins. Et là, on veut en parler des Dolphins parce que là, c'est un peu l'équipe qui buzz là, cette semaine, que tu suis titré à la couverture des Dolphins, tu le sais comment que toi, c'est un des cas arrière là, qui, franchement, là, polarise le plus. Là. Oh. Soit il est pourri, on se demande qu'est-ce qu'il fait dans une équipe de la NFL, ou soit, c'est parce que vous l'avez pas encore vu, puis là, on sort toutes sortes de stats pour montrer qu'il est aussi bon que Josh Allen. Mm-hmm. Fait que, est-ce que la performance de toi de la fin de semaine va faire taire les critiques plus que 7 jours?
Pas si il n'est pas capable de répéter les exploits, pas au même degré, mais si ça fait patate, excuse-moi l'expression, si ça fait patate contre Buffalo dimanche, les mêmes questions vont être là. Puis comme dans l'intro, j'ai remarqué que tu as dit que Tua a amené les Dolphins de leur déficit. Je m'excuse, moi je te dirais que les Dolphins sont venus de là. Tua, c'est comme le chef d'orchestre qui a présentement des musiciens. Puis là, je te parle avec la vitesse qu'ils ont en attaque, là, avec Tyreek Hill, Jalen Waddle, Raheem Mostert, Chase Edmonds. Puis là, tu parles, Gesicki, c'est pas un gars bien vite, mais c'est un gars acrobatique, puis on a vu son attrapé dans la zone début. Donc, moi, je te dirais que, puis j'avais écrit ça avant le début de la saison, dans cette attaque-là, la pression est très, très, très diminué pour un carrière. Comme je te dirais que moi, dimanche, si tu regardes ça, la protection que tu as eue de la ligne offensive, superbe. Il y a eu une séquence, ouais. Une séquence au deuxième quart où Justin Houston, 3 fois en fil, ils l'ont laissé aller pour une raison que je comprends pas. Mais anyway, à part ces 3 jeux-là, tout le temps qu'ils voulaient avoir là, puis c'est pas nouveau ça, il y a pas personne qui est capable de couvrir Tyreek Hill puis Jalen Waddle présentement. Puis moi, j'ai vu ça tout le long du camp d'entraînement. Puis je me demandais, bon, est-ce que la défensive, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'y ralentir? Est-ce que c'est une combinaison de, ils font des expérimentations défensivement, puis ils veulent aussi donner la confiance à l'attaque? Parce que tout le temps du camp d'entraînement, Hill puis Waddle, ils étaient tout ouverts. Même chose de pratique avec Tampa Bay. Puis là, la pratique contre New England, Tyreek Hill, t'as ouvert toute la journée. Waddle un peu aussi. Si tu regardes, ils ont touché 42 verges quand il fait le petit move à l'intérieur. Il y a quand même une belle fenêtre pour faire la passe. Puis après ça, c'est zip, bip, bip, dans la zone des buts. Puis dimanche passé, tout ouvert. Donc, la pression pour un corps arrière présentement, de la manière que l'attaque des Dolphins fonctionne, est pas très grande. Puis ça, c'est un argument que j'ai tout le temps avec les gens sur Twitter, là, que bon, t'es un hater qui appelle, là, tu veux pas donner crédit. Oui, mais donner crédit, t'as fait une très bonne performance. Mais
moi, on n'est pas prêt à le changer contre Dan Marino encore, là.
Non, puis il n'est pas prêt à l'échanger pour Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, Aaron Rodgers, Tom Brady, il y en a beaucoup. Parce que les Dolphins, écoute, comme on sait, il est dans sa troisième saison, donc la saison morte prochaine, les Dolphins ont le choix. C'est le premier temps où ils peuvent lui donner un contrat de long terme. Numéro un, numéro deux, ils ont aussi jusqu'au mois de mai pour décider l'option que logiquement ils vont te faire parce que c'est une autre année d'évaluation que tu vas avoir. Là. Mais avant de... Parce qu'un corps arrière de ces temps-ci, là, tu parles 45-50 millions par année. Est-ce qu'on est prêt présentement à donner ça à toi pour 5-6 ans? Moi, je suis pas convaincu que oui. Fait que faudra en voir encore plus. Puis moi, je veux le voir quand les choses sont pas parfaites alentour de lui. Puis ça a toujours été mon gros point de doute avec lui. C'est quand les circonstances alentour sont comme il était dimanche en deuxième demi contre Baltimore. Puis Baltimore, la secondaire, ça fait dur.
C'est effondré.
Quand les circonstances alentour de lui seront pas parfaites, puis il faut qu'il fasse des jeux de lui-même, puis que c'est pas le talent alentour de lui, est-ce qu'il va être capable de le faire? Ça, c'est la question, puis je suis pas encore au point d'arriver de dire que oui, aucun doute.
T'as très bien fait le tour, Alain, de la situation avec Tua. On va laisser maintenant les amateurs de football porter leur jugement. Ils sont très capables de le faire avec Tua. Il y a juste ça, des jugements là, d'un bord ou de l'autre. J'aimerais ça que tu me parles aussi de Mike McDaniel, nouvel entraîneur-chef. Tu sais, il y a des fois avec les entraîneurs, on le sait, ça travaille facilement, c'est le fun. Avec d'autres, c'est très compliqué, c'est des régimes de terreur. Comment ça se passe avec Mike McDaniel, puis comment tu évalues la progression de l'équipe depuis qu'il est arrivé?
Oui, tout de suite, en partant, ça prend pas longtemps pour voir une espèce de grosse différence de personnalité entre lui et Brian Flores, l'ancien coach.
Qui venait des Pats.
Pardon?
Qui venait de l'école des Pats. Là, fait que ouais. La pomme n'était pas tombée loin de l'arbre, comme on dit.
Non. Puis ça, généralement parlant, ça marche pas, cette approche-là. Parce qu'on regarde Joe Judge, Matt Patricia, des cas comme ça, là, ça marche pas, cette approche-là. Mais Brian Flores est très, très intelligent quand ça en vient des ex et des hauts, comme il appelle. Sauf que sa manière de gérer ses joueurs, il a besoin de faire du progrès là-dedans. McDaniel, écoute, de ce qu'on voit de nous, parce que derrière les portes fermées, c'est pas toujours la même chose, mais de ce qu'on peut voir de nous puis de ce que les joueurs nous disent, c'est son approche, il est bien plus amical. Il est super intelligent. Il a une personnalité différente. Tu vois ses conférences de presse, c'est toujours un des jokes ici par là. Mais il est super intelligent. Il est arrivé à Miami avec une réputation d'être comme un génie offensif. Puis moi, quand j'ai parlé de toi, là, puis ce qu'il produit, avec la vitesse qu'il a en attaque, c'est pas mal génial. Là, la grosse question avec Mike McDaniel, c'était, bon, OK, est-ce qu'il peut mener un groupe? Oui, il est intelligent, oui, il a une belle personne, mais est-ce que ça peut être un leader de gars? Écoute, c'est un leader de... Quand tu tires l'arrière, 28 à 3, puis 35 à 14, c'est un bon moment pour voir s'il est capable de ramener un groupe. Ils ont passé ce test-là, je dirais, moi, avec brillance. Fait que, comme je te dis, jusqu'à maintenant, j'y vois les... Oh, pardon, les mots en français m'échappent. Ici, là, les odds pour l'entraîneur de l'année, mais c'est Mike McDaniel qui est maintenant meneur.
Parce que là,
on parle de deux semaines, là, mais...
Mais comme tu dis, Mike McDaniel, tu sais, il est comique, là, il fait toutes sortes de mots d'esprit dans les conférences de presse. Ça va bien quand tu gagnes. Mais, tu sais, mettons qu'ils sont à 3-6, là, puis qu'ils commencent à faire des blagues, là, à tout bout de champ dans les points de presse, peut-être qu'il va être moins bien reçu.
Ouais, mais d'un autre côté, moi, ce que je te dirais peut-être, c'est que si tu présentes une ère de que c'est pas, tu sais, la fin du monde est arrivée, parce qu'à 3-6, ta saison n'est pas finie non plus. Fait que non, tu veux pas faire des blagues que ha ha ha, tout est beau, tout est parfait, mais d'un autre côté, tu veux pas être, tu sais, comme en funérailles non plus. Fait que il est assez intelligent où quand c'est le temps d'arrêter de blaguer, il va le faire. Fait que mais le point que je mettrais là-dessus, c'est que jusqu'à présent, c'est bien difficile de trouver n'importe quoi qui va pas parfaitement avec Mike McDaniel.
Bon, hey, on aimerait ça aussi t'utiliser comme journaliste qui est en Floride, là. On sait que depuis, c'est la troisième année maintenant de Tom Brady à Tampa Bay. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact de Tom Brady en Floride sur le football en général, sur l'ambiance? Est-ce qu'il y a plus d'attention? Comment tu vois ça, l'arrivée de Tom Brady en Floride?
Pas un gros impact en Miami, là, parce que c'est deux équipes différentes, puis l'impact à Miami, c'est juste les rumeurs qu'il y a eu partout, puis les Dolphins avec leur essai d'aller le faire convaincre de
qu'ils leur ont coûté un premier choix repêchage par ailleurs.
Ouais. Mais ouais, sur ce point-là, il y en a bien qui te diraient que, parce que l'idée de, encore moi le mot français mais va m'échapper encore une fois là, mais l'idée de tampering là, si on pense vraiment que les Dolphins sont les seuls qui ont jamais fait ça avec Tom Brady, on est très naïf. Mais l'autre chose, si on se rappelle bien, une des accusations de Brian Flores, c'est que Stephen Ross, le propriétaire, il voulait être payé d'un bonus pour chaque défaite en 2019. Mais ça, c'est pas une chose que la Ligue voulait admettre pour deux secondes. Fait que c'est bien plus facile de dire, OK, on vous trouve coupable du tampering avec Tom Brady puis Sean Payton pour l'avoir comme entraîneur. Fait qu'on va vous...
On ferme les yeux sur les défaites. Là.
Ouais. Ou on n'a pas d'évidence pour...
OK, mais toi, tu penses que c'est un peu l'histoire derrière tout ça. Là. C'est qu'ils l'ont en fait... Ils l'ont donné une tape sur les doigts pour autre chose que la vraie chose pour laquelle il aurait dû. Là.
Disons que ça ne serait pas surprenant. OK. Attends ça comme ça. Mais pour revenir à la question, non, à part de ça, l'impact de Tom Brady à Miami... Pas vraiment. À Tampa Bay, écoute, ils ont gagné le Super Bowl la première saison qui était là. Fait que, mais je sais pas, Tampa Bay, c'est à 4 heures d'ici. Je peux pas vraiment te dire l'impact qu'il y a là. J'imagine que oui, effectivement. Mais Tampa Bay, c'est quand même une équipe pas mauvaise avant qu'il soit arrivé. Parce que ça, c'est une autre chose. Faut pas se tromper. C'est pas qu'il s'est joint à une équipe poche, là. Quand il est arrivé là en 2020, il y avait une bonne équipe qui le prenait encore ailleurs.
C'est ça, les armes étaient déjà là.
Ouais, ouais. Puis en plus de ça, il est allé chercher Rob Gronkowski, il est allé chercher quoi, d'autres joueurs, c'est pas Antonio Brown qui est arrivé cette saison-là ou la saison suivante. Fait que ça n'avait pas été difficile d'aller recruter des joueurs. Mais en fait, d'impact à Tampa Bay, j'imaginerais que ça serait très gros. Ici à Miami, non, pas vraiment. Là, l'impact, c'est McDaniel, Tyreek Hill, puis Tua pour ceux qui y croient.
On va rester à Miami, là, tu sais, parce qu'il y a un gros match là, qui va être assez baromètre, assez important pour évaluer où en sont vraiment les Dolphins contre les Bills en fin de semaine. Qu'est-ce que tu entrevois, toi, de ton côté? Est-ce que tu penses que les Dolphins peuvent mettre fin à leur série de misère? Ça a été très, très, très difficile contre les Bills dans les dernières années. Des matchs à sens unique, des bonnes vieilles volées, comme on dit chez nous. T'as-tu l'impression que le vent favorable qui souffle sur Miami là, peut amener un petit peu un changement de scénario?
Oui, puis moi je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une couple de raisons. Les comptes finales, si tu regardes l'année passée, 35-0 puis 26-11, c'est laid. Si tu examines les matchs à la mi-temps, la première partie, c'était 14-0. Puis les Dolphins avaient, si je ne me trompe pas, deux possessions offensivement où ce qui était rendu au 20 ou 25 de Buffalo, pas été capable de faire de points. La deuxième partie, c'était 3-3 à la mi-temps. Donc, puis ces deux parties-là, la défense est comme effondrue en deuxième demi, en grosse raison parce que l'attaque n'était pas rien capable de faire. Mm-hmm. Là, comme on a vu, l'attaque est pas mal différente.
C'est pas la même game.
Pas même game, pas pantoute. Une autre chose, Buffalo a joué lundi soir, ils s'en vont sur la route sur une semaine courte, comme ils appellent. En plus de ça, Buffalo, leur demi de coin partant, Dane Jackson, j'imagine qu'il jouera pas après avoir joué lundi soir. Mike Hyde, il a laissé la partie. Je sais pas exactement c'est quoi son status pour la match. Gabriel Davis, un de leurs deux receveurs partants, il a pas joué lundi soir. Ed Oliver,
le gros plaqueur.
Ouais, il a pas joué lundi soir. Mm-hmm. Un de leurs joueurs de ligne offensif, c'est pas un partant, là, mais si jamais il y a une blessure, Bobby Hart, qui est suspendu après avoir essayé de donner un coup de poing à un joueur de Tennessee après la partie lundi soir. Il l'a manqué, il a frappé un coach à la place. Fait que Buffalo, ils ont des problèmes de personnel présentement, donc ça, c'est un autre facteur. Quel autre facteur qu'il y a? C'est tout. C'est trois facteurs.
C'est déjà pas mal. C'est à considérer, là, honnêtement.
Oui, c'est à considérer que coach, on ne sait pas ce qui va arriver, parce que si je le savais, je terminerais notre entrevue présentement, j'irais prendre un vol à Vegas, puis je mettrais tout mon argent sur la marque. Mais je te dirais que logiquement, l'idée que ça va être un autre claque pour les Dolphins, je suis pas convaincu.
Bien, merci beaucoup, Alain, d'avoir participé à notre podcast aujourd'hui, puis surtout dans cette semaine là très effervescente pour l'équipe que tu couvres à Miami, les Dolphins. On va souhaiter que, en tout cas, en tant que partisan des Dolphins, que t'aies raison, puis que l'équipe de Mike McDaniels réussisse à tenir tête aux Bills, puis qu'on ait un bon match à 1h dimanche soir, dimanche en fait. Je te remercie.
C'est comme tragique, moi, que je sais pas si ça vous affecte du tout, là, mais que l'équipe numéro 1 d'annonceurs de la télévision, ils seront pas là. Ils vont être pour le match de Kansas City à Indianapolis.
Ouais, ça c'est un peu ridicule. Là.
Parce que le choix est fait.
Faut que tu t'adaptes. Là. Je comprends qu'ils choisissent ça des semaines à l'avance, mais adapte-toi à la NFL telle qu'elle est dans le moment. Là. Ouais. Bon point. Puis moi, je dirais juste à Alain, merci beaucoup. Puis aux auditeurs, si vous voulez croiser Alain, vous demandez c'est qui, puis il est ami. Hey, je suis ami. Cherchez une calotte des Expos, vous allez le trouver. Il a toujours sa casquette des Expos. Moi, à un moment donné, j'étais au Combine à Indianapolis l'an passé. Je disais, Alain, j'aimerais ça qu'on se voit, qu'on soupe ensemble. Moi, oui, il dit, tu vas me trouver facilement dans la salle des médias. Je me demandais bien, la salle des médias est immense, mais ça n'a pas été long que j'ai vu la casquette des Expos. Donc, point de repère pour tout le monde.
Merci, bonjour. Alain. Bon match en fin de semaine, bonne fin de saison, puis au plaisir de se reparler bientôt.
Ouais, merci, les gars.
Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez La Zone payante sur Cube Radio. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. On est rendu à notre deuxième quart, Steph. C'est les actus de la semaine et les histoires de la semaine. Franchement, là, on dirait qu'on en fait une habitude maintenant dans la NFL. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Là. Cette semaine encore, on a eu des remontées. Entre la semaine 1, la semaine 2. Qu'est-ce qui explique ça d'après toi que les équipes ont de la difficulté à garder des avances, parfois jusqu'à 3 touchés dans le dernier quart.
Hey, c'est ridicule, Jean-Nic. Moi, honnêtement, j'ai pas vu ça souvent. Là. Puis, écoute, qu'est-ce qui explique ça? C'est sûr qu'au début de l'année, il y a toujours une espèce de mise en rodage. Il y a des équipes là, pour lesquelles la communication est déficiente, ça c'est évident. Mais encore là, écoute, c'est presque inexplicable. Tu regardes cette semaine, là, il y a 4 équipes qui ont remonté des déficits d'au moins 10 points. C'est du stock pas mal. Puis quand tu disais que c'est une tendance, on dirait, là, c'est pas une illusion, j'ai vérifié. Depuis la semaine 1, là, donc en 2 semaines, il y a eu 8 équipes qui ont remonté des déficits de 10 points. Puis ça, selon NFL Research, ce serait le deuxième plus haut total après 2 semaines depuis la saison 1987. Fait qu'on n'a pas une illusion, là, puis on arrive à la conclusion qu'on se dit, ben non, c'est le même tout le temps, on s'en rend juste pas compte. Non, c'est complètement fou cette année. Puis les gens là, qui sont comme nous, qui s'amusent à faire des prédictions, demandez-vous pas pourquoi c'est tout croche. Il y a rien à comprendre de ce début de saison. Là. Écoute, cette semaine, les Dolphins, les Cardinals des déficits de 20 points et plus à la mi-temps, puis qui s'en viennent gagner ces matchs-là. Écoute, c'est la première fois de l'histoire de la NFL que plus qu'une équipe remonte un déficit de 20 points pour aller gagner la même journée. Fait que c'est quelque chose d'incroyable. La seule chose qui est à peu près à la normale dans toutes ces remontées-là, ben, c'est que les Browns ont gaspillé une avance de 13 points dans les deux dernières minutes. Puis c'était la première équipe depuis 2001, les Browns, qui avaient fait la même chose contre les Bears. Fait qu'écoute, ça, c'est à peu près la normale des choses qui vient replacer la balance.
Il y a quelqu'un qui me disait, comment tu fais pour choisir le pire moment dans l'histoire des Browns? Est-ce que c'était lui en fin de semaine ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Puis là, la personne m'a répondu, oh, mais c'est un peu comme quand t'as faim puis tu vas au Dairy Queen. Là. Il y a tellement de choix là, que tu sais pas quoi prendre.
Écoute, c'est sérieux. C'est la même chose. Le pire moment dans l'histoire des Browns, là, on pourrait faire une longue dissertation. On pourrait faire un épisode spécial sur ces moments-là.
Hey, d'autres histoires qui sont arrivées en fin de semaine. Steph, je veux t'entendre sur ce qui s'est passé avec le match entre les Buccaneers et les Saints. On sait que les deux équipes s'aiment pas. Les Saints avaient toujours battu Tom Brady et les Buccaneers en saison régulière depuis 2 ans. Il y a comme un conflit aussi entre des joueurs des deux équipes. Mais là, ça a explosé en fin de semaine. Puis Tom Brady, on l'a vu souvent lancer ce... Il y avait de l'émotion en fin de semaine.
Oui, tout à fait. Puis tu sais, ça part souvent entre Marshawn Lattimore, le demi de coin des Saints, puis Mike Evans, le receveur des Bucks. Tu sais, ça fait plusieurs fois que ces deux-là en viennent au coup. C'est pas une première. On dirait que Lattimore a le don de rentrer dans la peau de ses adversaires, des tanner jusqu'à leur faire perdre la tête. Puis cette fois-là, on peut quasiment se demander si Tom Brady a pas joué d'astuce, là, c'est-à-dire que il s'est un peu engueulé avec Lattimore. Ça a commencé comme ça, toute cette escarmouche-là. Puis après ça, après l'espèce de bataille royale qu'il y a eu sur le terrain, ou le Royal Rumble, ou appelez ça comme vous voulez, les Bucks n'ont plus été pareils, puis les Saints non plus. Ils ont pris complètement le contrôle du match. Fait que, est-ce que c'était sur le coup de l'émotion ou c'était vraiment une stratégie? Ça, on le saura pas. Mais pour revenir sur Brady, c'était quand même surprenant là, de le voir aller sur le banc, lancer son casque, péter une tablette, engueuler son monde à répétition, pas une fois comme on a vu de temps en temps pour fouetter les troupes. Là, c'était des fuck, 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 puis des pointages de doigts, puis tout. Et puis là, je le sais que je risque de heurter les épidermes ultra sensibles. Les gens qui aiment Brady, ils vont le défendre à vie, à la mort.
Fait que tu peux y aller, je vais bien prendre ça.
Ah ouais, j'en doute pas, toi, ça va bien aller. Mais quand Brady gueule, quand il pète des tablettes, quand il lance son casque, on se dit, quel ultime compétiteur, quel grand compétiteur, la passion, le feu, à 45 ans, un vrai leader qui inspire les troupes. N'importe quel autre corps arrière dans la ligue fait le 1/8 de ce que Brady fait, puis on va dire, quel mauvais exemple, quel mauvais coéquipier, du mauvais leadership. Je pense juste qu'il y a deux poids, deux mesures là-dedans. Puis écoute, Brady a fouetté les troupes au fil des années, puis on ne peut plus remettre en doute ses compétences de leader. Là. Franchement, là, je pense qu'on n'en est pas là. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était un peu too much le dimanche. C'est beau là, d'essayer de mettre le feu au derrière de ses coéquipiers. Mais à un moment donné, quand tu le fais à toutes les 3 minutes, ça me paraissait un peu bizarre. On en vient à se demander, tu sais, Tom Brady, cette année, il est arrivé au camp très, très amaigri. C'est évident là, qu'il semble y avoir une histoire de problèmes personnels à la maison. J'ai pas le goût d'aller là-dedans, là, mais tu sais, c'est l'information.
C'est pas impossible qu'il amène les enfants. C'est pas impossible qu'il amène ses problèmes de maison au bureau.
Ben, tu sais, ça commence à paraître. Puis ça, personne peut juger là-dessus. Je veux dire, ceux qui ont vécu ça, c'est pas nécessairement des situations évidentes. Là, on va le comprendre. Mais faux, là, en ce moment, qui arrive à faire la différence, je pense, entre le professionnel puis le personnel. C'est pas évident. Il y a des choses sur le terrain qui le frustrent aussi. Écoute, là, Tom Brady, 2 passes de touchant en 2 semaines, là. Pour commencer l'année, c'est seulement la 3e fois de sa carrière qu'il vit ça. Donc, il était habitué à des débuts de saison beaucoup plus prolifiques. L'attaque qui fonctionne pas très bien du côté des Bucs. En ce moment, c'est vraiment la défense qui traîne l'équipe. Là, c'est toute une défense. Fait qu'il y a plusieurs frustrations, mais tout ce que je voulais dire là-dessus, moi, c'est que faut faire attention à un moment donné. Là. Moi, Tom Brady, j'y ai lancé toutes les fleurs qu'il n'y a pas. Là. T'sais, à un moment donné, il faut juste être capable de lancer le pot des fois quand ça ne fait pas non plus.
Puis là, on s'entend qu'il n'y aura pas un petit match en fin de semaine à Green Bay. Mais bien hâte de voir ça, on va en parler tantôt.
Tout à fait.
Et l'autre histoire de la semaine, ben là, c'est pas tant que Kirk Cousins s'est foiré en prime time, on va en parler peut-être plus tard, mais c'est les Eagles, ouais, je veux pas te faire de peine, mais les Eagles.
C'est juste que c'est plus une histoire, en fait, le Kirk Cousins. C'est ça.
Mais l'histoire, c'est les Eagles, tu sais, ouais. On avait enterré Jalen Hurts, on en parlait tantôt avec Alain, tu sais, Tua Tagovailoa, Jalen Hurts, c'était des gars qu'on avait dit, ils sont pas faits pour la NFL. Puis là, en tout cas, ils trônent les deux au sommet des statistiques de la NFL en cette semaine 2. Qu'est-ce qui explique, autre que Jalen Hurts, tu penses, les succès des Eagles? C'est tôt dans la saison, mais quand même, c'est impressionnant.
Ben, c'est ça. Juste un mot avant d'expliquer le reste là, autour des Eagles. Jalen Hurts, moi, ce qui m'impressionne le plus, je sais pas pour toi, mais c'est son amélioration claire comme passeur. Parce qu'on le savait que c'était un carrière dangereux qui pouvait courir à tout moment. Il est encore très redoutable au sol. Là. D'ailleurs, ça n'a pas changé. 2 touchés encore lundi. Mais comme passeur, moi, ce que j'apprécie, là, c'est qu'il va au fil de ses lectures. T'sais, il progresse à travers ses lectures. C'est plus le cas là, on fait un ce qu'on appelle un option play, puis la première lecture, on décoche rapidement une passe. Jalen Hurts, c'est plus ça en ce moment. C'est beau à voir. Pour te montrer comment il distribue bien le ballon, 4 receveurs qui ont plus de 65 verges lundi dans la victoire face aux Vikings. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde impliqué dans cette attaque-là aussi. Là. L'arrivée d'AJ Brown a vraiment fait du bien. Ça libère Devontae Smith.
AJ Brown, quel match encore!
Quelle acquisition! Franchement, là, pour les Eagles, c'était parfait parce que tu as le petit explosif Devontae Smith. Puis là, t'as lui qui arrive, qui est complètement un autre style de receveur, gros, physique, imposant.
Installe dans les entre-zones, personne n'est proche.
Et voilà, tu sais, c'est très beau à voir. Puis, faut dire une chose, la ligne offensive des Eagles joue du gros, gros, gros football. Jalen Hurts est très bien protégé. En ce moment, il a été victime de 4 sacs du corps. C'est le 3e meilleur total de la ligue pour une ligne offensive à ce stade-ci. Donc, il y a tout ça, puis évidemment, on en avait parlé dans notre épisode avant la saison. Moi, j'aimais beaucoup ce que les Eagles avaient fait comme investissement défensif. Puis ça, c'est en train de rapporter. Tu sais, on a vu Darius Slay, là, ça fait une couple d'années qu'il est là. Mais de l'autre côté, on en parle moins. James Bradbury, qui joue du gros football, l'autre demi de coin, lui, ils sont allés le chercher sur le marché des agents libres. On a été chercher Chauncey Gardner-Johnson tout juste avant la saison, le maraudeur. Donc, c'est une tertiaire qui est clairement amélioré par rapport à l'année passée. On va attendre avant de couronner les Eagles parce que quand même, on a battu les Lions à la première semaine, les Vikings qui ont clairement éprouvé des ennuis dans ce match-là. Donc, j'ai hâte de les voir contre des vrais gros, gros canons là, avant qu'on s'emporte peut-être. Mais quand même, c'est une équipe qui est franchement belle à voir aller en ce moment.
Et l'autre équipe qui est 2-0 dans la division, c'est les Giants. Là. Est-ce qu'on parle du même calibre d'équipe ou...
Ben, moi, j'irais pas là pour l'instant. C'est personnel, mais les Giants, tu sais, ils restent qui ont battu des équipes pas nécessairement fortes. On parle des Titans, des Panthers, tu sais, c'est quand même assez difficilement les deux, là.
Oui, mais il y a 6 équipes invaincues dans la NFL et en font partie.
Mais je te rappelle que l'an passé, à la même date, tout le monde s'extasiait. Je pense que c'est les Panthers, si je me trompe pas, qui étaient 3-0. Finalement, leur saison a viré en catastrophe. Faut vraiment faire attention. Dans ce temps-là, faut regarder souvent qui t'a affronté. T'sais, pour moi, ben les Eagles avaient quand même un bon test là, lundi en recevant les Vikings. Je dis pas que c'est un prétendant au Super Bowl, mais quand même, c'est une bonne équipe de football. Les Giants, je veux juste les voir battre quelqu'un de crédible avant de crier au triomphe. With the fans counting down the play clock, Wilson stumbles,
goes down, gets back up, and now he's taken down. Ce qu'on vient d'entendre, Steph, c'est les partisans des Broncos. Écoute, je sais pas s'ils se moquent de leur équipe, s'ils sont de bonne foi.
Oh non, mais là, il y a de quoi se moquer, là.
Écoute, parce qu'il faut rappeler que La semaine 1, les Broncos ont vu leur entraîneur Nathaniel Hackett essayer un botté de 64 verges qui a échoué. Et là, en fin de semaine, plusieurs autres décisions douteuses. Ouais. Et ça, c'est aussi, tu sais, c'est la gestion des temps d'arrêt aussi dans la semaine 1, aussi dans la semaine 2, et la gestion du ce qu'on appelle la play clock. Et là, c'est ce qu'on entendait, la foule crier 5, 4, 3, 2, 1, 0 pour avertir l'attaque, le play clock descendait. C'est pas l'histoire d'amour attendue là, à Denver entre les partisans puis Nathaniel Hackett. Là.
Non, ça a l'air d'aller pas mal vite pour Hackett. Puis tu sais, il faut le dire, les Broncos, malgré tout, ont gagné cette semaine, mais c'était par la peau des fesses contre les Texans d'Houston. Tu sais, c'est quand même pas une grosse équipe. Ça devrait aller mieux que ça. Là. À date, là, c'est vraiment pas convaincant. La game a l'air d'aller très, très vite pour Hackett. Faut se rappeler que lui, c'est sa première expérience comme coach en chef dans la NFL. Il était à Green Bay dans les années passées comme coordonnateur offensif, mais c'est même pas lui qui appelait les jeux. Là, il a les deux responsabilités en même temps. Coach de l'équipe et c'est lui qui colle les jeux à l'attaque. Ça fait peut-être beaucoup dans son plateau pour commencer. Il faudrait peut-être revoir ça. Puis c'est toute la gestion de l'équipe. Tu parles des gens qui comptent le play clock. Écoute, il y a 4 punitions là, pour avoir retardé la partie jusqu'à maintenant. Il y a 6 hors-jeu à l'attaque. Tu sais, ça, c'est des punitions que tu dois pas pogner à répétition comme ça. C'est l'équipe la plus punie de la Ligue. D'ailleurs, les Broncos, 25 pénalités au total. Tu sais, très, très mauvaise communication dans l'ensemble. Écoute, tu parles de l'utilisation là, de l'horloge, des temps d'arrêt. Leur dernier time-out contre les Texans, il restait 7 minutes 38 à jouer. Ça, ça veut dire qu'il y a tellement souvent de la confusion qu'il faut que tu prennes tes time-outs pour un tout puis un rien. C'est vraiment, vraiment inquiétant ce qui se passe là-bas. Écoute, une des pénalités, Jean-Nic, pour des lay-off games, je regardais la reprise l'autre jour. Ils ont une punition pour avoir retardé la partie sur un retour de dégagement parce que le retourneur n'était pas sur le terrain. Comment ça peut arriver? C'est pas crédible, ça fait pas très NFL. J'ai l'impression que les Broncos, c'est quand même une équipe solide puis une bonne organisation, puis ça devrait se replacer. Mais il faut vraiment, vraiment que Nathaniel Hackett relève son coaching d'un cran là, parce qu'en ce moment, c'est un peu n'importe quoi à Denver.
Merci, Steph. C'est tout pour les actualités de la semaine, mais on va continuer de parler de certaines choses qui se passent dans la NFL avec les questions des auditeurs après la pause. Entre autres, est-ce que les 49ers sont mieux avec Jimmy G qu'avec Trey Lance? Bougez pas. Question du public. Vous êtes à la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette. Vous écoutez ça sur Cube Radio. Et on est maintenant à l'étape des questions du public. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions. On va essayer d'en faire le plus possible. Ça sera pas facile cette semaine. Merci toujours de votre participation.
Ouais, c'est vraiment le fun.
N'hésitez pas à nous écrire. On va vous donner des endroits où nous écrire plus tard. Mais on va commencer par la question de Jonathan Chabot, parce que ça, c'est une question... c'est une des grosses histoires de la fin de semaine, mais aussi peut-être une des grosses histoires pour le reste de la saison. Jonathan nous dit que c'est un fidèle auditeur de notre podcast et on le remercie. Sa question est, selon vous, est-ce que les 49ers seront une meilleure équipe avec Jimmy Garoppolo aux commandes à l'attaque? Avant la terrible blessure de Trey Lance, l'attaque semblait avoir régressé depuis le début de la saison.
Ouais, ça c'est. Je suis content aussi que Jonathan amène la question parce que ça aurait été assurément dans nos sujets en entrée de show. Quand on a vu qu'on a eu la question, ben on s'est dit pourquoi pas l'attaquer dans ce segment-là. Donc merci. Puis écoute, c'est bien difficile. Quand on dit que l'attaque semblait avoir régressé depuis le début de la saison, moi j'aurais voulu voir Lance à plus long terme. Là, écoute, il a joué 73 minutes cette saison, dont 60 minutes dans la boîte à Chicago. C'est pas un échantillon là, qui peut nous dire ben l'attaque avait régressé ou pas. T'sais, c'était comme une game un peu flouque qui sort de nulle part, des conditions impossibles. Donc, ça, on saura vraiment pas ce que Trey Lance valait. Puis c'est ce qui est le drame chez les Niners. C'est pas que Jimmy G soit revenu. Ça, au contraire, c'est un coup de génie de l'avoir ramené. Mais le drame, c'est que tu sais toujours pas ce que tu as entre les mains avec Trey Lance. Puis il va être à son année 3 l'an prochain. Ça, c'est moins le fun pas mal, là, parce qu'il y a eu un temps de jeu très limité. en tout cas, c'est la question qui m'inquiéterait du côté de San Francisco. Dans le présent, moi, je suis loin d'être convaincu que les Niners, c'est une mauvaise chose, là, au sens où Jimmy G, il est limité. Tu sais que c'est pas le gars qui va t'amener l'attaque la plus explosive du monde, mais les Niners savent exactement ce qu'ils amènent. Ils le connaissent bien. Les vétérans l'adorent. Je sais pas si tu as vu, Jean-Nic. Ouais, je pense que je t'ai envoyé la vidéo, hein.
L'espèce de célébration entre coéquipiers, tout le monde est tout sourire. Les gens, les gars aiment Jimmy G.
Oh oui, c'est clair, clair, clair. Tu sais, il est arrivé dans le caucus, puis ça, il tape sur le casque, ça, il brasse les épaules, puis ça sourit. Puis tu vois qu'il est apprécié dans ce vestiaire-là, ça, c'est sûr. C'est un leader qui a été amené les Niners très loin dans les dernières années quand il était en santé. Il y a une fiche de 33 victoires, 14 défaites. Je comprends qu'une fiche, c'est pas juste la fiche d'un corps arrière, mais c'est un gars qui est capable d'aller gagner. Par contre, moi, je m'attends à une petite phase d'adaptation. Tu sais, les Niners ont tout transformé leur système.
Bouts, c'est sûr.
Ben, c'est ça. Tu amènes un corps arrière mobile comme Trey Lance, athlétique. Tu veux miser là-dessus, tu changes tout ton playbook. Finalement, tu reviens au bon vieux Jimmy G, qui est plus le traditionnel corps arrière de pochette. On va devoir rechanger complètement l'approche offensive. Donc, c'est possible que l'attaque se cherche un petit peu. Si on passe par-dessus ça, je pense que les Niners sont en voiture avec Jimmy G, puis qui pourraient même mieux performer au final, là, parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils ont entre les mains. Il y a moins de facteurs inconnus.
Question de Jérôme Jacques. Pourquoi Kirk Cousins, mon cher Stéphane, a autant de difficultés à remporter des matchs lors du Monday Night Football?
Ben, écoute, rendu là, moi, je pense tout simplement qu'il est comme ça, Kirk Cousins. C'est trop gros, le stage est trop gros pour lui. Puis là, c'est pas juste de sa faute, évidemment. Puis je l'ai souvent dit, c'est pas un mauvais corps arrière, Kirk Cousins. C'est un bon corps arrière, mais c'est pas plus que ça. La preuve, c'est que sa fiche en carrière, là, c'est maintenant quelque chose comme 60-62. 60 victoires, 60 défaites, 2 nuls. Il n'y a pas plus correct que ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu ne peux pas aller beaucoup mieux. Sa fiche le lundi, c'est maintenant 2-10. Dans les matchs à heure de grande écoute, 10-18, les matchs en soirée. Écoute, à un moment donné, c'est le corps arrière que tente les mains. Il est bon. Dans les matchs là, bien ordinaires à une heure, il va être capable d'aller te chercher de gros chiffres. Puis tu vas te dire, hey, je pense que c'est une attaque qui peut être sensationnelle. Puis finalement, quand la cuisine, ça commence à chauffer un peu, ben il redevient un peu le Kirk Cousins qui se replie sur lui-même, qui tente des passes à l'aveuglette, qui est pas capable de fuir la pression. Je pense tout simplement que les Vikings ont un échantillon convaincant depuis quelques années. Là. Puis ce sera pas mieux, ce sera pas pire, ça va être toujours le même Kirk Cousins.
Fred Bazin, sur Twitter, qui nous pose la question, est-ce que le problème à l'attaque des Steelers, c'est le carrière ou c'est Matt Canada, le offensive coordinator?
Oui, c'est une excellente question parce que j'ai l'impression que c'est un sacré beau duo à problèmes, en fait. Tu sais, là, Matt Canada, le coordonnateur offensif, les joueurs l'ont critiqué ouvertement après la game. On est à la deuxième semaine d'activité, rappelons-le, la troisième qui commence. Après deux matchs, déjà les joueurs le pitchent en dessous de l'autobus. Je parle de Trubisky lui-même qui a dit des commentaires à l'effet qu'il pouvait pas aller en profondeur si les jeux étaient pas appelés en fonction d'aller en profondeur. Même genre de commentaires du côté de Chase Claypool, du côté de Diontae Johnson. T'sais, on parle des vedettes à l'attaque qui critiquent ouvertement leur coach. Ça, c'est pas bon signe. Par contre, Trubisky, moi, je l'ai dit depuis quand même un bout, je suis pas vendu. Il m'a jamais convaincu. Il y a eu un bon échantillon là, pour se faire valoir, que ce soit à Chicago dans les années passées ou là, Pittsburgh, on voit que c'est pas vraiment mieux que ce qu'il nous a montré par le passé. Est-ce que Kenny Pickett est prêt à aller dans la mêlée? Ça, il y a juste les Steelers qui le savent. On peut faire bien des hypothèses de notre salon puis leur lancer des roches parce qu'ils l'embarquent pas. C'est eux qui le voient à l'entraînement, dans les meetings d'équipe, dans les meetings offensifs. Ça, le temps devrait nous dire ce qu'il y en est. Mais honnêtement, cette semaine, ça aurait pas été une bonne idée de l'envoyer dans la mêlée un jeudi soir avec 3 jours de préparation. Il va avoir 10 jours avant le prochain match contre les Jets. Ça pourrait être un pensez-y bien là, de se revirer vers Kenny Pickett pour la semaine 4. Mais honnêtement, en ce moment, Canada est autant un problème que lui. Donc, c'est un sacré beau duo.
Que faire avec Ryan Tannehill, nous pose la question, c'est de Régent Perron. Est-ce le temps d'aller avec Malik Willis?
Ben, le problème des Titans, c'est que pour l'instant, moi, je pense qu'ils ont les mains liées. Malik Willis, c'est pas un corps arrière qui était prêt pour la NFL. Un choix de troisième ronde. Un prospect excitant là, au sens où il est extrêmement athlétique. T'sais, c'est un joueur qui peut amener un électrochoc à l'attaque, mais ça va durer combien de temps? T'sais, au niveau de la passe, je pense qu'il est clairement pas prêt. T'sais, il a joué à Liberty, lui, dans la NCAA. Là, c'est clairement pas un programme qui est conçu pour amener tes joueurs en claquant des doigts de la NCAA à la NFL. Donc, je serais surpris qu'avant la fin de l'année, là, on lui donne une chance. Peut-être en fin de saison ou, je sais pas, moi, à la mi-saison, si les choses s'écroulent vraiment. Mais pour l'instant, il faut que tu continues avec Tannehill pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Ouais. En ce moment, ça semble plus aller du côté pire que meilleur.
On parlait de Kirk Cousins, deux carrières qui ont été repêchés la même année, qui ont pas mal le même parcours. Là.
Ouais, c'est ça. Exact.
Parcours moyen. OK, Pierre nous pose la question. Compte tenu de la blessure à Herbert et que les Chargers reçoivent les Jags, est-ce que ça vaut la peine de le faire jouer? Bien sûr, sans rien prendre pour acquis pour les Jaguars.
Ouais, faut surtout que les Jaguars viennent d'en sortir une bonne. Leur front défensif a l'air quand même très intéressant cette saison. Là, on se rapproche du bon vieux Saxonville de 2017. Là. On n'est pas rendu là, mais quand même, il y a des signes encourageants. Moi, je dis que si Herbert, il n'y a aucun doute sur son état de santé, là, c'est pas une question de « Ah, oh, on va le préserver, c'est juste les Jaguars, faut qu'ils jouent. » Tout simplement, il n'y a pas de match gagné dans la NFL. Si, par contre, les médecins de l'équipe arrivent à la conclusion qu'il y a le moindre risque là, d'aggravation ou quoi que ce soit, puis que là, tu risques de le perdre à long terme, ben écoute, ce serait une très bonne idée à ce moment-là d'envoyer Chase Daniel dans mêlée. Là. C'est tout simplement ça que les Chargers doivent se poser comme question.
Roussovski, Pierre-Luc Roussovski, hein, je présume. Comment expliquez-vous que les Jags dominent outrageusement les Colts à répétition, alors que sur papier, Indianapolis est beaucoup plus talentueux?
Ça fait partie des grands mystères, comme la caramille un peu. Là,
ah, parce que Frank Reich, mettons qu'il a été assez sévère avec lui-même puis avec son équipe, avec raison, là, 24-0 contre Jacksonville.
Hey, ça fait trois fois depuis 2017 que les Jags blanchissent les Colts. Les Jags, je pense qu'ils ont 8 victoires de suite à la maison contre les Colts. À un moment donné, j'ai l'impression que ça fait juste jouer dans la tête des joueurs. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils se font parler de ça jour après jour après jour. « Hey, qu'est-ce qui se passe contre les Jaguars? » Puis ça finit qu'à un moment donné, j'ai l'impression que tu joues les fesses serrées un peu. Puis, je parlerai pas des autres années, mais cette année, c'est clair qu'il semble y avoir des lacunes. Là. Les Colts qui avaient peut-être mal évalué leur profondeur au niveau des receveurs. Tu sais, quand Michael Pittman est sur la touche, là, il te reste plus grand-chose. La ligne à l'attaque, qui joue clairement sa pire saison depuis des lunes, puis on a investi beaucoup d'argent sur cette ligne à l'attaque-là. Honnêtement, on commence à se demander s'il n'y a pas un problème de ce côté-là. Donc, ça va être à voir. Là, les Colts sont encore en masse le temps de se relever. C'est une division qui est très faible. C'est pas le moment de paniquer. Mais c'est certain que les problèmes à Jacksonville, moi, j'arrive très mal à les expliquer, bien honnêtement.
Est-ce que les Cowboys ont gagné avec l'énergie du désespoir ou Cooper Rush peut remettre le ballon à Dak Prescott avec une fiche gagnante quand il reviendra de blessure? Une question de Toby.
Oui, merci Toby. C'est pas dans le domaine de l'impossible là, qu'ils reviennent avec une fiche gagnante parce que tu regardes le calendrier, ils affrontent les Giants lundi soir puis Washington la semaine d'après. On devrait se retrouver ça à peu près là, au retour de Dak Prescott après ces deux matchs-là. Fait une fiche gagnante quand il va revenir, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est dans le domaine du très possible. Tant qu'il va continuer, Cooper Rush, de jouer dans les limites de son talent, de faire le nécessaire, tu sais, sans essayer de jouer le hero football, là, ça devrait fonctionner pour les Cowboys qui sont bien appuyés défensivement. Honnêtement, Micah Parsons, tout un phénomène là, quand tu le regardes jouer. Là, il peut jouer autant au milieu qu'à l'extrémité pour aller chasser les corps arrière. C'est ça qui est beau à voir de ce joueur-là. Ils peuvent l'utiliser un peu n'importe comment. puis il va répondre présent. Donc, c'est ça, là. Mais Cooper Rush, il faut juste faire attention, là. Ça va, je pense qu'il fait une très bonne job comme réserviste. Là, il y a deux games de tape maintenant, là, celle de l'an passé contre les Vikings, puis celle de cette semaine, là, qui vont permettre aux équipes de mieux se préparer, de mieux connaître ses tendances. Donc, j'ai hâte de voir là, contre les Giants.
Question de Robin. Compte tenu du rendement des Bengals jusqu'ici et surtout la non-protection de Burrow, aussi pire que par le passé, on se rappelle sa grave blessure à sa première saison. Pensez-vous réévaluer votre classement de fin de saison? Parce que c'est vrai que tout le monde avait mis quasiment les Bengals au Super Bowl encore cette année, alors que là, il pourrait manquer les séries.
Moi, j'avais dit les Bengals en série. Je les voyais deuxième dans la division derrière Baltimore avec une fiche de 17. J'avais mentionné que leur calendrier était plus difficile. Quand tu as fini premier de division, ça t'amène aussi les adversaires qui correspondent. Cela dit, rater les séries, je suis pas encore rendu là dans ma tête. C'est inquiétant, là. 13 sacs en deux semaines aux dépens de Burrow. Il se fait bombarder à répétition. Mais c'est des fois le cas d'une nouvelle ligne à l'attaque. On se rappellera qu'ils ont signé les Bengals 3 nouveaux joueurs sur cette ligne offensive-là. C'est comme un balai, là. Va falloir qu'il y ait de l'entraînement, un peu plus de cohésion. Ça peut se développer au fil de la saison. Ce qui me rassure du côté des Bengals, j'essaie d'être positif là en même temps, là, mais il n'y a pas non plus là, de force majeure à part Baltimore là, dans cette division-là. Tu regardes Cleveland, ben ça reste Cleveland. Tant qu'il n'y aura pas un corps arrière de grande qualité, ça va être dur de faire fonctionner cette attaque-là à plein régime. Puis Pittsburgh, on le voit depuis le début de l'année, ça va être encore la défense qui va traîner le show. Fait qu'il y a encore des possibilités là, pour Cincinnati. C'est pas parce que t'es à 0-2 que c'est fini. Donc, je reste positif dans leur cas.
Merci, Steph. Merci à tous pour les questions. On est actifs sur le groupe Mes précieux conseils de fantasy sur Facebook. Vous pouvez nous chercher. Sinon, ben sur Twitter, vous pouvez nous attraper puis nous poser des questions. Ou sinon, l'adresse de la zone payante, Steph?
La zone payante à québecormedia.com. Puis juste dire aux gens qui ont posé d'excellentes questions, là, on essaie d'en prendre le plus possible. Là. La semaine prochaine, on les garde en banque, ceux qu'on n'a pas répondu. On va essayer de les ramener. Là. Disons qu'on va vous donner une priorité là, sur les prochains.
Merci, Steph. Après la pause, c'est l'heure de la prédiction. Semaine 3 déjà de la NFL.
Ça va vite.
Mais quelle semaine à venir, bougez pas, après la pause, on en parle.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
I got news for you, buddy. We're going to win the game, I guarantee it.
Vous êtes sur la zone payante en compagnie de Jean-Nicolas Gagné et de Stéphane Cadaret. OK, Steph, semaine 3.
Non, on skip ça, les prédictions cette semaine. Pas de prédictions. Oh, ça me le dit plus, là, trop de surprises.
Tu sauras que là, il y a moins de surprises après moi qui s'en vient cette semaine. Là. On est habitué, les deux premières semaines, c'est la première surtout, la deuxième, il y a encore des petits tours qui se font jouer, mais là, on commence à avoir un meilleur portrait. Puis la crème va commencer à remonter à la surface. Je suis pas inquiet. Puis c'est toi la crème en plus. C'est que tu vas monter. Inquiète-toi pas.
Les deux premières semaines, faut juste rester en vie. Faut survivre, s'accrocher, se tenir après un bâton au lieu de tomber dans la falaise. Là.
Exact.
Après moi, ma première semaine,
c'était terrible. J'ai commencé avec 7. Là, ça va mieux. J'ai eu 11 la semaine passée.
Oh, 11, c'est très bon, honnêtement. 11 sur 16 à la deuxième semaine. Bravo.
Ouais, merci.
Ben moi, j'ai un vulgaire 9, encore une fois. Ouais. Au moins, je suis stable, j'ai 2 fois 9.
Exact. On est à la même place, là. Tu sais, tu vois, on est les deux 18.
Féroce rivalité.
Exact. Mais là, ça va peut-être se séparer cette semaine. Commençons avec le match de jeudi. avec des rivaux de division. Les Steelers reçoivent les Browns qui sont favoris par 5, les Browns, si je comprends bien.
Ouais, ils sont à la maison. C'est sûr que ça procure un avantage. Les Steelers se cherchent à l'attaque. Écoute, si les Browns sont capables de continuer à courir avec Chubb et Hunt, ça devrait très bien aller.
Ça va être... fait bien des blagues, mais ils n'ont pas eu un match affreux là, contre les Jets.
Non.
Mais ils ont dominé au sol. Si Chubb s'était assis à la ligne de 1, on n'en parlerait même pas. Là.
Non, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, c'était quoi les chances qu'ils perdent ce match-là? On rit, mais c'était un peu ridicule. Là. Ils ont dominé de bout en bout, là, sauf les deux dernières minutes, malheureusement. C'est le même au football des fois. Les Steelers se cherchent à l'attaque. Est-ce qu'ils vont trouver une solution là, face à Cleveland? Je vais y aller avec les Steelers quand même, malgré tout. Là. Peut-être qu'il va y avoir un électrochoc sous Mitchell Trubisky qui va devoir jouer le match de sa vie pour sauver sa job. Mais... C'est pas quelque chose avec lequel je vais en confiance. Non, je le dis pas avec une grande conviction, en effet.
Non, écoute, si le match repose sur les épaules d'un ou de l'autre des quarts arrière, bien difficile à prévoir qui peut tirer les marrons du feu. Tant qu'à moi, là, l'attaque de Pittsburgh a vraiment montré aucun signe de vie. Puis les Browns... Surtout avec l'absence encore de TJ Watts. Je pense qu'ils vont réussir à faire plus de points que les Steelers. Donc, victoire des Browns.
Défensivement, par contre, Jadeveon Clowney qui sera pas là, puis Myles Garrett qui est magané. Là, au moment où on se parle, c'est un cas incertain. Fait que, à surveiller.
On s'en va à Miami. En tout cas, peut-être pas le match de la semaine, mais un des deux matchs de la semaine. En tout cas, très attendu pour savoir si les Dolphins sont vraiment... une équipe à surveiller cette année. Ils reçoivent les Bills qui massacrent tout sur leur chemin. À toi, Steph.
Les Bills aiment appeler, ben pas les Bills, mais les partisans des Bills, soyons plus clairs, aiment bien appeler cette semaine-là la semaine squish de fish.
Exact.
Ils s'amusent un peu avec ça. Ils ont gagné 7 matchs de suite contre leurs rivaux de division par une moyenne de 19,3 points d'écart. C'est pas juste là, genre on domine, mais c'est serré là. On écrase les Dolphins dans les dernières années. Josh Allen qui a lancé au moins 2 passes de toucher dans chacune des games qu'il a joué contre les Dolphins à date dans sa jeune carrière. J'y vais avec les Bills sans surprise là. T'sais, évidemment que j'ai aimé ce que j'ai vu de Miami cette semaine. On en a parlé pas mal tantôt, mais je suis juste pas capable en ce moment de miser contre Buffalo. Ça a l'air d'un rouleau compresseur. Faut se tasser de leur chemin.
La seule chose, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de blessures dans la tertiaire. Là. Buffalo, ça va être difficile de couvrir Tyreek Hill puis Jalen Waddle, mais
c'est vrai.
Si on pas le ballon à l'attaque, ça risque de pas donner autant de verges et de statistiques ronflantes que la semaine passée contre les Ravens. Puis au sol, je m'excuse, mais on n'est pas capable à Miami de gagner des verges au sol à l'attaque et on n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol de l'autre côté. Encore plus quand c'est un corps arrière qui court. Je pense que Josh Allen va encore courir, va encore gagner des verges. Je m'attends pas à un haut pointage, curieusement. Là. Moi, je m'attends à un bas pointage.
Moi, je me serais pas surpris d'un bon vieux shootout, ce game-là.
Non, moi je.
Il n'y aura pas 19 points d'écart. Je pense que les Dolphins vont faire meilleure figure, là. Mais pas assez pour les battre.
Pour la troisième fois en 3 semaines, je mets l'équipe contre les Dolphins gagnant.
Le partisan le plus pessimiste de la Terre.
Les victoires des Bills. OK, on s'en va à Foxborough maintenant parce que les Pats reçoivent les Ravens qui ont un lendemain de veille difficile cette semaine.
Ouais, tu sais, c'était une défaite, comme on parlait pour les Browns tantôt, un peu bizarre, tu sais, ça aurait jamais dû arriver. Il y a évidemment les breakdowns là, dans la couverture contre Miami en fin de match, mais il faut dire aussi que les Ravens ont raté des chances là, avec Lamar Jackson sur des 4e essais et 1. Il y a eu un échappé à la porte des buts. Tu sais, c'est des choses que tu vois pas nécessairement à chaque semaine des Ravens. Ils ont une attaque qui demeure très, très efficace. Puis, il faut dire une chose, là, les Pats pourront pas les menacer comme l'ont fait les Dolphins avec leur receveur dominant. Du côté de l'attaque de la Nouvelle-Angleterre, c'est la grande lacune, là, le manque d'explosivité chez les receveurs. Fait que j'y vais avec les Ravens.
J'ai pas lancé la serviette pour les Ravens. Je pense qu'ils ont une bonne équipe, mais il va falloir qu'ils restent en dehors de l'infirmerie. Victoire des Ravens, moi aussi. OK, les Commanders, eux, reçoivent les Eagles, parlant d'équipes qui semblent incapables de pas massacrer leur adversaire. Et ça sera le cas en fin de semaine pour les Eagles.
Hey, c'est le Carson Wentz Revenge Bowl. On pourrait dire ça comme ça. Hein? Corps arrière des Commanders, qui était jadis dans sa première de trois vies avec les Eagles.
Mais il y a une bague du Super Bowl.
Oui, il y a une bague du Super Bowl. C'est sûr qu'il ne l'a pas joué, là, mais il y a quand même une bague. Il avait été extraordinaire cette saison-là, soulignons-le. Depuis, ça a été une autre histoire. Puis ça va continuer, je pense, d'être des montagnes russes avec les Commanders. Une interception par-ci, un toucher par-là. Il accumule beaucoup de verges en ce moment, mais écoute, ça vaut ce que ça vaut. Là. Des fois, quand tu es dans des situations où tu tires de l'arrière, beaucoup plus facile pour le corps arrière d'afficher des stats de verges impressionnantes. Pour toutes les raisons qu'on a nommées tantôt par rapport aux Eagles, quand on a parlé là, de leur force cette saison, je continue de croire en eux, j'y vais avec eux. Ce serait très décevant qu'ils échappent ce match-là.
Je pense qu'après la semaine 3, personne n'a élucidé encore comment arrêter les Eagles. Ça viendra peut-être, mais pas cette semaine contre les Commanders. Les Colts, eux, écoutez, Matt Ryan, je ne sais pas comment il va faire pour jouer avec Patrick Mahomes en essayant d'avoir autant de touchés, mais il va devoir essayer. Il est négligé par un touché en fin de semaine à Indianapolis.
Ben comme nos parents disaient quand on était petits, l'important, c'est d'essayer de participer. Comme tu dis, il va devoir essayer. Est-ce que Michael Pittman va revenir au jeu? Ça, c'est très, très important dans l'équation. Parce que sinon, moi, je vois même pas les Colts être compétitifs dans ce match-là s'il n'est pas là. Il n'y a tout simplement pas assez de profondeur dans ce groupe de receveurs-là. Défensivement, les Colts se cherchent aussi. C'est pas une bonne idée de se chercher contre les Chiefs. C'est pas le moment. Je peux pas faire autrement qu'y aller avec les Chiefs dans cette rencontre-là.
Oui, exact. Je pense que Mahomes va gonfler ses statistiques contre les Colts qui se cherchent en début de saison. Les Panthers, quant à eux, reçoivent les Saints. Je sais pas comment qu'on va faire pour avoir des touchés dans ce game-là.
Oui, parce que les Saints, là, il y en a qui vont dire, ben non, première semaine, ils ont marqué des points. Oui, ils ont marqué à peu près tous leurs points au quatrième quart. Si tu regardes les sept autres quarts dans l'année, là, ils ont à peu près rien fait offensivement. Donc ça, c'est une tendance inquiétante un peu. Du côté des Panthers, c'est pas bien mieux. On se bat à coups de placement. Tu sais, Christian McCaffrey, jusqu'à maintenant, qui a touché le ballon 14 fois semaine 1, 19 fois semaine 2. Je le répète, il faut que ce soit le moteur de cette attaque-là. Je comprends qu'avant, on mettait peut-être une charge beaucoup trop grosse sur ses épaules, mais 14 puis 19 fois, c'est pas assez si tu veux aller chercher des points là, quand t'es les Panthers de la Caroline. T'as pas le luxe de te fier sur 152 autres joueurs. Là. Matt Rhule qui est vraiment de plus en plus sur un siège éjectable. Là. Moi, je pense que c'est le coach à travers la NFL qui est le plus en danger. J'y vais avec une victoire des Saints pour que son siège soit encore un petit peu plus chaud.
Écoute, les Panthers sont à domicile. Je pense que ils vont gagner ce match-là. Oh. C'est le mauvais Jameis Winston en ce moment qui est derrière la ligne. Je trouve qu'ils ont trop... Robbie Anderson, ça commence à cliquer avec Baker Mayfield. Ils vont donner le ballon à McCaffrey. Victoire à domicile des Panthers.
Let's go.
Les Raiders... eux, qui sont aussi dans un lendemain de veille cette semaine, incroyable défaite. Et qui s'en vont affronter les Titans, encore une équipe en déroute. Franchement, là, il y a des débuts de saison difficiles pour certaines équipes de la NFL.
Oui, tout à fait. Puis les Raiders, c'est con à dire parce qu'ils sont 0-2, mais ils n'ont pas joué du mauvais football. Tu sais, les Chargers, c'était une très grosse équipe à la semaine 1. Puis à la semaine 2, ils ont dominé ce match-là, mais encore une fois, un très, très, très mauvais quatrième quart, catastrophique. Je suis très embêté dans ce match-là. C'est deux équipes qui vont avoir désespérément besoin de gagner. Tu vas me dire, à la semaine 3, c'est pas déjà exagéré de dire ça? Ben, honnêtement, là, les Raiders, dans la division où ils jouent, t'as pas le choix, à un moment donné, d'aligner quelques victoires. Puis les Titans, ben, la division est faible. Ils sont peut-être moins désespérés que les Raiders, mais quand même, on parlait d'une équipe très sérieuse, là, le Tennessee, avant la saison. C'est arrivé une seule fois qu'ils ont perdu trois matchs de suite sous la férule de Mike Vrabel, puis c'était à sa première année en 2018 quand l'équipe était pas très forte, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Je continue de croire que c'est un bon coach qui va ramener l'équipe, peut-être pas là où elle était à son niveau des deux dernières années, mais qui va la ramener à un niveau compétitif. Là, je peux pas croire que ça va rester comme ça. Comme je le disais, les Raiders, ben, qui ont pas mal joué depuis le début, mais qui ont de la misère à fermer leur dossier. Là. Ça, c'est l'instinct du tueur qui manque chez eux. À domicile, j'y vais avec les Titans.
Premier choix à domicile, parce que là, tu t'en
as. J'ai beaucoup d'équipes de route cette semaine. Ça m'inquiète un peu. C'est drôle que tu le mentionnes parce que je faisais mes choix puis je me disais, j'ai beaucoup de route là-dedans. Mais à un moment donné, il faut y aller avec son feeling aussi.
Ouais, mais moi aussi, mon feeling, c'est que les Titans peuvent pas perdre ce match-là. Mais c'est pas un match facile. Non. C'est vraiment parce qu'ils sont à domicile. Les Raiders jouent bien. Ils ont beaucoup plus d'armes. En plus, je regarde les Titans et je me dis, là, qu'ils sont unidimensionnels. Mais ils vont réussir à aller chercher ce match-là. Je pense que c'est l'orgueil qui va les aider. Les Lions, mon équipe Cendrillon cette année, là, franchement, pas juste à cause d'Hard Knocks, là, puis de voir leur progression, puis pas juste parce que Dan Campbell manque a toujours envie de pleurer, mais parce que j'ai envie qu'ils réussissent. Mais là, ils s'en vont affronter une équipe qui va avoir faim à domicile, les Vikings, là, qui vont vouloir faire oublier leur défaite de lundi.
Un match à 1h au Minnesota, le dimanche, c'est parfait ça pour Kirk Cousins. Beaucoup plus à l'aise dans ce contexte-là. C'est pas évident, par contre, là, les Lions, les trois derniers duels contre les Vikings ont été décidés par 2 points. T'sais, c'est une rivalité qui était pas serrée avant, ça le redevient. Ils marquent beaucoup de points, les Lions, cette saison. Honnêtement, c'est impressionnant au niveau de l'attaque. J'y vais avec les Vikings, mais ce sera pas facile comme ça l'était là, certaines des années passées. Victoire des Vikings, ouais, très serré.
Bon, j'aime beaucoup les Lions, moi aussi, mais je pense que je vais y aller avec l'équipe qui est favori par 6 points pour l'emporter à domicile, les Vikings. OK, les Bears, eux, reçoivent les Texans de Houston. Un match, j'espère qu'il pleuvra pas en plus, parce que ça risque de finir 3-0.
Ça se pourrait, même s'il pleut pas, que ça finisse 3-0, là. Les Bears, faut qu'ils ouvrent la machine, tout simplement. Là. Écoute, 11 passes dimanche soir contre les Packers. 11. 48 verges nettes par la passe.
Je pense qu'il y a 18 tentatives de passe Fields depuis le début de l'année.
Non, tu sais, c'est... Là, ouvrez les valves. Vous avez un jeune corps arrière talentueux. Est-ce que vous y croyez ou pas? Tu sais, c'est le temps peut-être de le montrer. Quitte à l'exposer, là, puis écoute, moi, je peux pas croire que tu disais à ton corps arrière, bon, ben, on va y aller tellement conservateur. Tu sais, les Bears ont tiré de l'arrière pendant une très bonne partie de ce match-là. Tu sais, c'est pas parce qu'ils étaient en contrôle puis qu'ils ont couru avec le ballon pour protéger une avance. Si c'était ça, je me l'expliquerais mieux. En ce moment, j'ai l'impression qu'ils cachent Justin Fields un peu. Est-ce que c'est parce que la ligne à l'attaque est trop dangereuse pour lui? Est-ce que c'est parce que le groupe de receveurs est tellement pas convaincant qu'on veut pas non plus lui faire perdre confiance? Il y a certainement des raisons. Mais si tu rouvres pas les valves à un moment donné dans la NFL d'aujourd'hui, c'est clair que ça va te rattraper. J'ai l'impression que là, les Bears, cette semaine, vont y aller avec un peu plus d'agressivité. Je leur donne la victoire.
Moi, j'ai trouvé que la défensive des Texans...
Très bon jusqu'à maintenant.
Franchement, là, contre Denver, on dira ce qu'on veut. Je comprends qu'il était mêlé comme un jeu de cartes, là, mais il était quand même solide là, quand l'horloge s'écoulait. Puis les Bears, écoute, sont à domicile, mais je vais quand même prendre les Texans cette semaine. Davis Mills, je vais me fier à notre premier invité de la semaine 1, Denis Cazavant, qui a dit surveiller les Texans. Ils ont une bonne équipe. Ils vont peut-être surprendre. Ils vont surprendre cette semaine. Ils vont aller battre les Bears à Chicago. OK, est-ce que les Jets, eux, peuvent surprendre les Bengals à domicile?
Ben écoute, si on surpris la semaine passée comme ils l'ont fait avec les Browns, sait-on jamais, mais tu peux pas gagner tous les games dans les deux dernières minutes, ça c'est sûr. Écoute, ce qui est surprenant, si je te disais qui est le troisième meilleur carrière dans la NFL pour les verges accumulées, si tu réponds Joe Flacco, tu gagnes un toutou. C'est vraiment surprenant. Comme je le disais tantôt, c'est pas une statistique qui est révélatrice pour moi, mais quand même, je voulais juste le souligner. Les jeunes Jets, c'est très intéressant là, par contre. Garrett Wilson, le receveur, choix de première ronde. Incroyable comment il est bon jusqu'à maintenant. Breece Hall qui a montré de belles choses la semaine passée. Sauce Gardner, le demi de coin, qui joue très bien aussi. Écoute, en partant, quand tu t'appelles Sauce, tu vas te faire des amis, là, c'est sûr. J'aime ce que je vois des jeunes Jets, mais là, les Bengals vont rebondir. Pourquoi? C'est que je pense pas que les Jets ont les joueurs sur le front défensif dominant pour pourchasser Joe Burrow comme il a été pourchassé lors des deux premières semaines. Tu sais, on parle de Pittsburgh et Dallas. C'était beaucoup plus intimidant comme front défensif. Ça va lui donner une chance de respirer, de manger un peu moins de gazon. Victoire Bengals.
Et quel match aussi de Sam Hubbard, là, pareil. Hein? Lui, il est en train de s'installer comme joueur défensif à Cincinnati. Je pense qu'il va donner du fil à retordre à Joe Flacco. Comme tu dis, je pense que les Joe Burrow vont avoir plus de temps dans la pochette puis il va trouver Ja'Marr Chase. Victoire des Bengals. OK, les Bucks, eux, et Tampa Bay reçoivent les Packers d'Aaron Rodgers dans ce qui peut être le match de la semaine. On s'attend beaucoup de ce match-là de duel des corps arrière.
Ouais, duel des corps arrière, puis j'ai hâte de voir au niveau des receveurs, au moment où on enregistre, Mike Evans allait en appel de sa suspension suite au combat furieux là, contre Marshawn Lattimore. Ça va être important. Les Bucks, comme police d'assurance, qui ont signé boucle d'or, Cole Beasley.
Oui.
Un retour pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il a pogné quand même 80 passes et plus, là, je pense, à ses deux dernières saisons avec Buffalo. Donc, c'est pas un 2 de pique. 3-0 pour Tom Brady en carrière contre Aaron Rodgers. Puis dans chacune de ces victoires-là, 31, 38 et 31 points. Là, c'est sûr, par contre, que l'attaque des Bucks, en ce moment, se cherche pas mal. La ligne à l'attaque n'est pas ce qu'elle était l'an passé. Beaucoup de blessures. Tu sais, regarde, ils ont perdu le bloqueur à gauche, Donovan Smith, déjà que la ligne était maganée. Son remplaçant, Josh Wells, s'est blessé lui aussi durant le match. Contre les Saints la semaine passée. Mais la défense est tellement, tellement, tellement dominante jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'elle va tourmenter Aaron Rodgers, qui n'est pas non plus grillé là, de receveur. J'y vais avec une victoire des Bucks.
Moi aussi, de mon côté, tant que la défensive des Buccaneers ne montrera pas de signe de faiblesse, je vais prendre pour les Bucks all the way. OK, les Chargers, eux, reçoivent les Jags qui... sont peut-être encore sur leur élan de champagne?
Ben, on le mentionnait tantôt, là, ce qui va déterminer, ce qui va faire foi de tout, c'est l'état de santé de Justin Herbert. Keenan Allen aussi. Je pense que Keenan Allen devrait jouer. C'est à souligner chez les Jaguars, là, Trevor Lawrence, qui vient de connaître vraiment son meilleur match en carrière. Maintenant, ce qu'on veut voir de son côté, un bon match, c'est très bien. Est-ce qu'il peut avoir la constance des bons corps arrière? Ça reste à voir. Chargers, c'est trop une grosse équipe. Là. J'y vais avec eux, même si Herbert ne devait pas jouer avec Chase Daniel, au pire, comme corps partant pour un match, ça peut faire. Donc, victoire des Chargers, peu importe.
Le corps arrière le plus intelligent de la NFL, Chase Daniels, avec plus, je pense, qui est presque 50 millions en gains en carrière, avec moins de 20 games de jouer. C'est un génie. Il va prendre sa retraite en pleine santé et très riche. Mais je vais prendre aussi pour les Chargers, que ce soit Herbert ou Daniels. Je pense que Jacksonville n'ont pas encore démontré être capable de battre une défensive comme celle des Chargers. OK, les Cards, remontée improbable la semaine dernière, mais est-ce que les Rams vont laisser filer une avance comme ça si au quatrième quart, c'est le cas?
Ben, les Rams, ils ont failli se faire remonter par les Falcons. Imagine la honte. Les Falcons, l'équipe que tout le monde s'amuse à remonter au quatrième quart. Les Cards, il va falloir en voir plus que ça. Par contre, c'est un quart du jeu extraordinaire de Kyler Murray durant ce quart-là en question. Mais les Rams, il va falloir en voir plus aussi. T'sais, ils cherchent complètement là, depuis le début de la saison. Beaucoup de revirements. C'est une équipe qui va devoir faire attention beaucoup plus à ça. Là. Écoute, des affaires qu'on voyait pas nécessairement l'an passé. Un fumble de Cooper Kupp, ça arrive jamais. Matthew Stafford, qui a plusieurs interceptions depuis le début de la saison. Dans un contexte comme ça, normalement, on dirait, vu qu'on sait pas trop, on va y aller avec l'équipe locale. Mais je pense que les Rams ont quand même une équipe supérieure. Je me tourne vers eux là, pour cette semaine.
Ouais, moi, je trouve, je suis un peu en désaccord avec toi. Je trouve que les Rams, même si on dans les faits saillants, ont quelques interceptions et des fumbles, reste que on les voit bien progresser là, à l'attaque. Là. Puis je trouve qu'ils n'ont pas trop de difficultés à se trouver. Ils n'auront pas de difficultés en fin de semaine, je pense, contre une tertiaire des Cards là, très faible. Victoire des Rams. OK, les Seahawks et les Falcons, un match un peu dans le bas du classement, mais qui pourrait peut-être faire des étincelles.
Oui, puis surtout qu'à Seattle, on l'a vu à semaine 1, Jean-Nic, l'énergie est toujours différente. Là. C'est pas du tout comme quand les Seahawks sont sur la route. Ça, c'est clair que ça va les aider. Les Falcons, c'est vraiment pas une grosse équipe. Puis en plus, ils ont réussi à faire disparaître Kyle Pitts de leur attaque.
Oui. S'il y avait... parce que c'est pas du fantasy football, là, Steph, tu comprends pas. Là.
Ouais, je sais bien. Mais à un moment donné, c'est ton joueur dominant à l'attaque. Utilise-le, trouve une façon. Ça se peut pas là, que tu le caches comme ça. Ce qui est bien du côté des Falcons, d'un autre côté, Drake London, un receveur qui fait très bien, là, honnêtement, un receveur recru. Les Falcons en avaient tellement besoin parce que leur receveur, c'est un champ de mine. J'y vais avec une victoire des Seahawks. Le fait qu'ils soient à la maison vont être énergisés. Je crois pas beaucoup en Geno Smith, mais j'ai pas besoin nécessairement de croire en une grosse explosion offensive là, pour battre les Falcons.
Même chose pour moi. Je pense que les Seahawks vont conserver le ballon plus que les Falcons qui vont faire des revirements. Et victoire à l'arraché des Seahawks. Maintenant, on s'en va à Denver. Est-ce que ils vont être capables de jouer un match clean, les Broncos contre les 49ers?
Hey, que la pression va être forte. Hein? Les partisans, tu l'as vu, on l'a écouté dans l'extrait, là, sont en train de tourner le club en dérision. Il faut absolument que les Seahawks commencent ce match-là fort pour se remettre les partisans de leur côté. Les Broncos, oui. Qui commencent ce match-là fort pour se remettre les partisans de leur bord. Là, parce que sinon,
c'est dimanche soir, là.
Ça va devenir rock'n'roll dans la cabane, ça sera pas drôle. Je me dis que s'il y a une personne qui connaît bien les Niners, c'est bien Russell Wilson. Il les a affrontés 21 fois alors qu'il était avec les Seahawks. Il y a eu une fiche de 17-4. C'est incroyable quand même. Contre toute attente, à la maison, j'y vais avec les Broncos, malgré le football désastreux qu'ils nous ont offert jusqu'à maintenant. Je parlais d'une petite phase d'adaptation pour les Niners au niveau de l'attaque. Faudra pas tout de suite se ruer sur Jimmy G si ça fonctionne pas à merveille. Là. Il va y avoir une petite période de rodage. Pour ce match-là, j'y vais avec les Broncos.
Bon, mais écoute, on se chicanera pas là-dessus, là, les Broncos. Moi, non, je sais, les 49ers, ils m'ont pas convaincu en fin de semaine, là. Tu sais, je trouve qu'ils ont de la difficulté à cliquer à l'attaque. Jimmy G, dans un environnement hostile, il est jamais à son meilleur. Puis, tu l'as dit, là, les Broncos, cette semaine, leur préparation va être beaucoup mieux. C'est des professionnels, tu sais, c'est la NFL, là. Je m'attends à une préparation beaucoup meilleure que celle de la semaine dernière. Puis Russell Wilson, on dira ce qu'on voudra, mais c'est toujours la première partie de la saison MVP. Je pense qu'il va connaître un gros match, son premier gros match avec les Broncos, victoire des Broncos à domicile. Et on finit avec le Monday Night. Les Giants qui reçoivent les Cowboys, les Giants qui sont invaincus, qui font partie des 6 équipes invaincues cette année.
Ouais, mais j'y vais encore avec Cooper Rush et les Cowboys. Moi, l'attaque des Giants m'a pas encore convaincu. Une moyenne de 20 points par match contre des adversaires plutôt faibles défensivement là, cette année. Ça va être clairement la meilleure défense qu'ils ont affrontée. Les Giants, pour ceux qui sont friands de statistiques, ont perdu leurs 6 derniers matchs du lundi soir et 9 de leurs 10 derniers contre les Cowboys. C'est ça, je vous laisse ça comme ça. Cowboys.
Match à bas pointage. Moi, je suis sûr que les Cowboys vont de la difficulté à aller chercher des points contre les Giants, mais beaucoup de difficultés. Je vois pas, même si Mike Gallup revient, je vois mal comment qu'ils vont pouvoir traverser et se rendre jusque dans la zone payante. Victoire des Giants, mon cher. Les Giants vont être 3-0 après cette semaine.
On a quoi? On a 4-5 différences, certains, là, cette semaine. Là.
Ouais.
C'est là qu'on va séparer les hommes des enfants.
Exact. On s'en reparlera avec plaisir, mon cher, la semaine prochaine. Et après la pause, là, on s'en va en prolongation, puisqu'on vient de finir nos quatre quarts. Puisqu'après la pause, mon cher, on s'en va au bar, la retour.
Oui.
Le retour de la chronique au bar.
À la demande générale.
À la demande générale, bougez pas. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. On est de retour à la chronique au bar, mon cher.
Yes!
Oui, qu'on nous demandait, là, on disait, hey, pouvez-vous revenir les boys avec la... Parce qu'avec le départ là, de notre ancien collègue, Jean, à qui on a une pensée là, cette semaine, hein? Jean qui a perdu son père.
Oui, très, très triste, sympathie, là, Jean, on est avec toi, on pense à toi. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on n'est pas amis.
Exact. Et c'est un peu lui qui avait beaucoup de plaisir à faire cette chronique au bar, mais on va la reprendre, cette chronique-là. Puis on va la porter bien haut. Et on va commencer avec Justin Fields qu'on écoute.
I mean, it hurts more in the locker room than the Bears fans. I mean, because at the end of the day, they're not putting in any work. I see the guys in the locker room every day. I see how much work they put in, so.
Hein? Une déclaration qui a un peu passé. Silence, mais je suis pas sûr que ça viendra pas le hanter, Justin Fields, de dire que dans le vestiaire, les gars, ils sont toujours un peu tristes de se faire huer par les partisans des Bears, parce qu'eux autres, ils travaillent pas. They're not putting in work.
Ils travaillent peut-être pas, mais ils payent.
Ils payent, puis d'après moi, ils travaillent pour...
Ils payent le gros prix, ouais.
Fait que je vais envoyer Justin Fields au bar, puis comme il est encore jeune, là, je vais y commencer une bière faible en alcool là, pour qu'il continue sa progression et qu'il soit pas trop magané. Je vais y faire une bière pas très calorique et seulement une bière. Je vais être sage, mais Justin, là, la bière du travailleur là, après une journée de travail, là, c'est bien précieux. Mérité. Fait que pense-y deux fois avant de te mettre les partisans des Bears à dos parce qu'ils peuvent être violents.
C'est une bonne idée, ça, parce qu'honnêtement, non, j'ai pas trippé non plus sur cette déclaration-là. C'est à mon tour là, d'envoyer quelqu'un au bar, j'avais hâte.
Ah ouais, donc?
Je peux y aller. Écoute, je vais envoyer des gens qui étaient déjà un petit peu échaudés au bar, moi, cette semaine. Et j'ai nommé, j'ai pas leur nom, en fait, mais il y a des partisans des Raiders qu'on a vus au troisième quart, alors que leur équipe menait 23-6. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Jean-Nic? C'est disgracieux. Il popait le champagne dans les estrades.
Oui, oui.
On a gagné. 23-6 au troisième quart, c'est quand même pas une avance insurmontable. Les chances étaient bonnes de gagner. Mais de là à dire au troisième quart que tout est fini, je m'en vais boire. Écoute,
c'est un peu imprudent.
Puis tu sais, dans le temps, il y avait un vieux dicton qui disait « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ». Mais avec les réseaux sociaux maintenant, ce qui se passe à Vegas fait le tour du monde. C'est comme ça. Alors, la gaffe a été vue par tout le monde. Vous avez l'air tata, pas à peu près. Donc, au bord, ces trios de partisans-là des Raiders. Puis,
on célèbre la victoire avant
ouais.
qu'elle se concrétise.
Ben avant, puis c'est jamais concrétisé finalement. C'est ça le problème là, là-dedans.
Exact.
Fait que j'ai trouvé un cocktail approprié qui s'appelle le Grand Awakening, donc le grand réveil. Écoute, je pense que ça va, juste le nom, ça fit parfaitement. Petite recette rapidement, 1,5 once de vodka à l'orange, un trait de vinaigre de cidre, oh ça doit fesser ça d'un cocktail. 1,5 once de sirop d'agave, des fraises bien effoirées, puis un petit coup de bière sur le dessus. Le mélange a l'air dégueulasse. Ça doit réveiller monsieur et madame. C'est parfait.
Des drinks dégueulasses de toute façon à Vegas. On en a déjà bu. Ça sera pas différent dans leur cas. Merci, Steph, pour ce drink et d'avoir envoyé des partisans des Raiders au bar, comme s'il y en avait un besoin, eux autres, 0-2. On leur espérait un meilleur sort cette semaine. Et on va souhaiter à nos auditeurs une bonne semaine de football, aussi à toi, mon cher. Et on se
retrouve. Pareillement.
La semaine prochaine. Bye, tout le monde.